Amis pèlerins, bonjour! La colonne partira cette année avec vous ou peut-être sans vous. Mais l'appel, lui, reste toujours le même. Marchez vers le Christ roi. Que vous soyez sur le bivouac, au bureau ou dans votre salon, ces 9 épisodes sont là pour vous faire avancer, pas à pas, vers le cœur du pèlerinage, le règne du Christ, sur la terre comme au ciel. Alors, prenons la route.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Homme Nouveau réalisé en partenariat avec Notre-Dame de Chrétienté. Comme toujours, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Isabelle Piau, directrice de la formation pour le pèlerinage. Bonjour Isabelle.
Bonjour Maïtena.
Cette année, à l'occasion du centenaire de l'encyclique Quas Primas, promulguée en 1925 par le pape Pie XI et instituant la fête du Christ roi, le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté a choisi pour thème « Pour qu'il règne sur la terre comme au ciel ». Dans le cadre de cet anniversaire, l'Homme Nouveau a également souhaité marquer l'événement en inaugurant une année du Christ roi. À cette occasion, nous avons lancé une grande enquête dont les résultats sont publiés tout au long de l'année. Vous pouvez les retrouver dans notre magazine ainsi que sur notre site internet dans le dossier dédié « Année du Christ roi ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean de Torrier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez été président de Notre-Dame de Chrétienté pendant 12 ans et venez de passer le relais à Philippe d'Arentière que nous recevrons plus tard. 12 années à la tête d'une telle organisation, c'est une longue et belle mission. Si vous deviez en faire le bilan en un mot, quel serait-il ?
Un bilan, d'abord ça a été une grande joie de m'occuper de Notre-Dame de Chrétienté avec des gens formidables pendant ces 12 années. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces 12 années ? Bien qu'on a tenu bon. On a tenu bon dans la tempête. Puisque on a été des enfants du pape François, et donc le pape François a été difficile avec Notre-Dame de Chrétienté, finalement, même si on a pu maintenir évidemment notre pèlerinage. On a eu aussi l'épisode Covid, on a eu aussi une grande tempête, et puis on a eu cette croissance du nombre de pèlerins, avec, on le croit et on l'espère, cette pluie de grâce qui a sur notre pèlerinage. Et donc c'est tous ces beaux souvenirs dont je me souviens, avec, en pensant évidemment à cette tempête que je n'oublie pas, et qui demeure d'ailleurs.
Vous avez donc transmis la présidence, mais vous restez engagé au sein de l'association. Quel sera désormais votre rôle ?
Alors je m'occupe, la tradition à Notre-Dame de Chrétienté et que le sortant reste en poste pour aider le successeur. Donc je suis là pour aider Philippe d'Arentière et puis pour aider le conseil d'administration. Donc je m'occupe tout particulièrement du partenariat avec les pèlerinages internationaux et nationaux qui sont en grand nombre et qui se développent et que Notre-Dame de Chrétienté veut aider. Mais je suis à disposition du conseil d'administration pour tout un tas de petites missions si le conseil d'administration le souhaite.
Dans ce podcast, nous approfondissons les différentes dimensions du thème de votre pèlerinage de cette année. Et aujourd'hui, nous entrons dans le cœur du message de Quas Primas en explorant ses fondements scripturaires et théologiques, ainsi que la nature concrète de la royauté du Christ. Pour commencer, quels sont justement les fondements scripturaires de cette royauté ?
Alors on trouve ces fondements scripturaires, qui sont rappelés d'ailleurs par Pie XI dans son encyclique Quas Primas. On les trouve dans les psaumes où on voit dans le psaume 71 cette phrase « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations lui seront soumises », oui, donc là il parle bien d'une royauté de notre Seigneur, de Dieu. Ensuite, on pourrait citer la fête de l'Épiphanie. Et je voudrais surtout insister sur les paroles de Jésus, ses derniers mots aux apôtres avant l'ascension, qu'on retrouve dans Matthieu 28-18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Donc on utilise Jésus, notre Seigneur utilise le mot « nation », donc Jésus demande à son Église, aux premiers évêques, d'enseigner les nations, et il ne dit pas « les hommes », donc les nations ont bien vocation à être chrétiennes, et pour le salut des hommes, bien sûr. On peut aussi citer comme fondement scripturaire bien le tout simplement le Notre Père que nous récitons régulièrement et qui a été une prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, où il est dit que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Comment comprendre la déclaration du Christ devant Pilate ? Mon royaume n'est pas de ce monde.
Alors de nombreuses erreurs ont été faites, hein, tout particulièrement de ces dernières années, sur la compréhension de cette phrase hein, qui est dans Saint Jean. Le plus souvent, on l'a comprise comme un refus du Christ de se mêler des choses temporelles. Alors, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Ce que nous enseigne le Jean Housset, vous savez que Jean Housset a créé la cité catholique, il a inspiré les fondateurs de notre pèlerinage de Chartres. Il a écrit un livre très important qui s'appelle « Pour qu'il règne ». Et c'est en pensant à ce livre, d'ailleurs, qu'on a choisi le thème de 2025. Il nous explique bien dans son livre que le royaume de Jésus-Christ ne vient pas de ce monde parce qu'il ne tire pas son origine de ce monde. On sait que le Christ n'a pas voulu sur terre de royauté temporelle. On peut citer trois exemples hein, dans la multiplication des pains. Les Juifs veulent faire du Christ leur roi terrestre. Et le Christ ne le souhaite pas. Une des tentations également du diable dans le désert est d'offrir au Christ la domination temporelle sur les peuples de la terre. Et notre Seigneur le chasse le diable. Et lors du dimanche des rameaux, la foule enthousiaste lui offre cette royauté terrestre. Mais mon royaume n'est pas de ce monde parce qu'il n'est pas comme les royaumes du monde. Le royaume de notre Seigneur est d'abord un royaume intérieur, spirituel, dont le but est de nous amener au paradis pour nous sauver, c'est ce qu'on appelle le salut. Alors le spirituel et le temporel sont liés, hein, comme nous le dit Gustave Thibon dans la préface de « Demain la chrétienté » de Don Gérard. Don Gérard, vous savez, est une personnalité qui compte dans le pèlerinage de Chartres, puisqu'il a participé à la création, et on cite souvent son sermon de 1985. Gustave Thibon nous dit, je le cite, hein, « Dans la chrétienté, Dieu descend à la portée de nos yeux et de nos mains. Il s'insère dans les patries et les cultures. L'infini se localise, l'éternel épouse les rythmes du temps. » Et je vous engage à regarder le très beau film « Il était une fois » qui a été produit par la chaîne Histoire sur Gustave Thibon. Gustave Thibon, donc ce paysan philosophe d'Ardèche, hein, il raconte dans ce livre sa vie dans son village de Saint-Marcel d'Ardèche. Et il raconte la vie d'avant-guerre, la première guerre, et une vie paysanne, difficile, dure, mais quand même civilisée par la chrétienté. Et je trouve que son récit explique, illustre de manière très concrète ce lien entre le temporel et le spirituel. Le Christ est pleinement homme et par son humanité, il règne sur toute notre personne, corps et âme, et donc sur tous les corps sociaux et sur la société. Voilà, la doctrine du règne social est donc bien liée, et je reviendrai là-dessus dans cet échange, est liée au mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, s'est incarné.
Et donc peut-on affirmer que le Christ est roi au même titre qu'un souverain terrestre, ou bien son règne est d'une nature différente ?
On ne peut comparer le Christ qui est Dieu avec un roi terrestre qui n'est qu'un homme. Lors de la cérémonie d'enterrement de la grande famille des Habsbourg-Lorraine, le cercueil arrive à Vienne devant la crypte des Capucins où tous les Habsbourg sont enterrés depuis de nombreux siècles. Donc il y a un cérémoniaire qui est à côté du cercueil et puis il y a un Capucin qui va poser quelques questions. Alors le cérémoniaire frappe trois coups et le Capucin pose la question rituelle qui demande à entrer. Lors de la première réponse, le maître de cérémonie énumère tous les titres du défunt, évidemment innombrables. Et le Capucin répondra « Nous ne le connaissons pas ». Trois coups sont à nouveau frappés, qui demande à entrer, dira à nouveau le Capucin. Le maître de cérémonie, cette fois-ci, énumère les hauts faits du Habsbourg-Lorraine. Sans succès, le Capucin répond « À nouveau, nous ne le connaissons pas ». La scène va se reproduire une troisième fois, avec toujours la même question, qui demande à entrer. Et cette fois-ci, une seule réponse du cérémoniaire, un homme, mortel et pécheur. Et le Capucin ouvrira alors la porte de la crypte. Magnifique cérémonial qui montre bien que même le plus grand empereur n'est qu'un homme. Donc la monarchie du Christ s'établit bien au-dessus des souverains terrestres. Elle est d'un autre ordre, de l'ordre spirituel, qui a en charge le salut des âmes devant Dieu. Toute la question de la doctrine du Christ roi est que la monarchie divine ne remplace pas les gouvernements terrestres. Saint Thomas d'Aquin nous aide à comprendre cette différence quand il nous dit « la grâce ne supprime pas la nature mais la perfectionne ». Donc la grâce de Dieu vient perfectionner ces sociétés temporelles en les élevant en quelque sorte par le règne du Christ roi. 2025 est l'anniversaire donc de Quas Primas, mais aussi le 17e centenaire du Concile de Nicée, premier concile écuménique réuni en 325 par l'empereur Constantin, qui a défini Contrarius, prêtre d'Alexandrie, le dogme de la consubstantialité du Fils avec le Père. Donc Arius voulait que Jésus ne soit pas Dieu, mais un simple intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc la grande hérésie arienne a déchiré la chrétienté au IVe siècle, avec de grands opposants célèbres, saint Athanase, saint Hilaire, saint Grégoire de Nazianze ou saint Basile. Mais cette hérésie a été peut-être la plus grave de l'histoire de l'Église, parce qu'elle touchait le centre de la foi chrétienne, la personne même de notre Seigneur, le Fils de Dieu. Et cette hérésie remettait en cause les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Pie XI a choisi, alors après inspiration divine, nous dit-il, de promulguer Quas Primas avec, donc en 1925, date anniversaire de Nicée, parce qu'il voulait justement insister sur la gravité de l'erreur condamnée dans Quas Primas, le laïcisme, c'est-à-dire cette séparation de l'ordre temporel et spirituel. Et il mettait en parallèle l'erreur arienne et l'erreur laïciste, voulant nous montrer que l'erreur laïciste est finalement aussi grave que l'erreur arienne.
Quelle distinction pouvons-nous faire entre la royauté spirituelle du Christ et sa royauté sociale ?
Alors c'est toute la question des relations entre l'Église et l'État, le spirituel, le temporel, Dieu, César, l'âme, le corps, la grâce, la nature, la royauté spirituelle et la royauté sociale. Il faut comprendre la royauté sociale, une royauté temporelle. On connaît les mots de notre Seigneur qui sont dans Saint Luc, en 20-25, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc notre Seigneur distingue clairement l'ordre naturel appartenant à César de l'ordre spirituel appartenant à Dieu. L'ordre spirituel exerce son pouvoir sur les âmes quand le pouvoir temporel concerne les affaires humaines, sociales, économiques, artistiques. Donc toute la difficulté réside bien dans la relation entre ces deux pouvoirs, ces deux royautés. Le christianisme reconnaît la légitimité et l'autonomie de l'ordre temporel et Dieu demande aux hommes de respecter les gouvernants. C'est ce que nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Chacun doit se soumettre aux gouvernants. Mais la royauté sociale de Dieu, donc la chrétienté, ne revient pas à faire gouverner les États par les hommes d'Église, mais à christianiser la société autant que de possible. On peut définir la chrétienté comme une société qui essaye de vivre selon l'Évangile, ce qui signifie appliquer les principes qui s'y trouvent. Notre Seigneur est venu accomplir la loi nous venant de l'Ancien Testament, il l'a complétée avec un commandement nouveau, celui de l'amour. Vivre selon l'Évangile revient à vivre en appliquant les commandements de Dieu à la lumière d'un commandement nouveau, la charité. Donc cette doctrine est confondue souvent de nos jours avec un régime théocratique, où le spirituel dirige le temporel, comme on le voit en Iran ou avec l'islam, et le laïcisme qui sépare et même oppose parfois le temporel et le spirituel. Donc c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le laïcisme nous dit que le religieux est une question privée qui ne concerne en rien l'État. Pie XI condamnera, et même il s'en indigne dans Quas Primas, contre ce laïcisme, il parle de peste de notre époque. Il est important de voir que Pie XI devient pape en 1922, quelques années après la Première Guerre mondiale. Il est horrifié par les ravages de la guerre, le nombre de morts entre pays chrétiens. Il a la conviction d'avoir vécu une guerre civile entre chrétiens qui a détruit les hommes, les sociétés, dans un véritable retour à la barbarie. Les totalitarismes sous son pontificat vont apparaître avec le communisme, le nazisme et puis le fascisme. Les empires vont disparaître, le russe, l'autrichien, l'allemand. Les persécutions vont se multiplier en Union soviétique, au Mexique avec les Cristeros, en Espagne avec la guerre d'Espagne de 1936 à 1939. Donc Pie XI vit cette période de transition et d'ailleurs il anticipe la prochaine, il va décéder en 1939, il va voir la Seconde Guerre mondiale arriver. Il essaye de tout faire pour l'empêcher. Pie XI va signer en 3 encycliques en 1937 contre le nazisme, avec Mit Brennender Sorge, la persécution des Christeros et la condamnation du communisme avec Divini Redemptoris. Quand je le cite dans Quas Primas, « Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits à peine croyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société tout entière. » Dès qu'on parle de lien entre le temporel et le spirituel, comment ne pas citer Charles Péguy, surtout quand on est pèlerin de Chartres. Charles Péguy a eu l'intuition de cette alliance du charnel et du spirituel, du caractère sacramentel de l'Église. Et je le cite, « La terre est comme les marches de l'Église, elle est pour monter au ciel, comme les marches de l'Église sont aussi pour monter et entrer dans l'Église. Nous avons le droit que la terre soit le seuil de votre ciel. »
Et donc justement, dans cet équilibre entre spirituel et temporel, est-ce que l'Église nous enseigne que le Christ doit être reconnu comme roi par les gouvernements ?
Le Christ roi, en effet, est un élément de la doctrine catholique qu'il nous faut croire. Hein. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique, dans un article qui est rappelé dans la charte fondatrice de notre âme de chrétienté. Donc vous voyez l'importance de Quas Primas pour notre âme de chrétienté. Donc c'est l'article 21.05. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. C'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. Au début de ma présidence, donc c'était en 2012, à Notre-Dame de Chrétienté, j'avais entendu un directeur général d'un grand mensuel catholique, de Progrès, donc à gauche bien sûr, me dire que le Christ roi était une doctrine abandonnée par l'Église après Vatican II. Il était pourtant considéré comme ce directeur général comme très bien informé et on était bien après le 1992, donc il ne pouvait ignorer le catéchisme de l'Église catholique. Donc comment est-il possible que cette doctrine soit ignorée par un homme aussi bien informé et qu'est-ce qui s'est passé ? Récemment, le cardinal Burke, qui est une personnalité de l'Église, ancien préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, cardinal protecteur de l'ordre souverain de Malte, sous Benoît XVI, il nous disait, c'est dans l'excellent journal L'Homme Nouveau, que malheureusement, les justes solutions que Pie XI a préconisées n'ont pas été correctement mises en pratique, en particulier à cause d'interprétations très réductrices de la royauté du Christ. Quas Primas et son enseignement non seulement peuvent, mais devraient absolument et de toute urgence retrouver leur place dans notre époque. Or, pour bien comprendre l'erreur, en tout cas l'oubli de mon directeur général, qui croyait cette doctrine abandonnée, il est important de rappeler que la déclaration conciliaire du Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse, 1965, n'a pas rappelé la doctrine du Christ roi de Pie XI. Et a plutôt défendu la neutralité de l'État. Depuis près de 60 ans, donc la doctrine du Christ roi n'a quasiment plus été enseignée, sauf dans certains bons endroits, comme le pèlerinage de Chartres, de Notre-Dame de Chrétienté. Et donc cette fidélité à cette doctrine nous est d'ailleurs reprochée par certaines autorités qui nous considèrent que nous voulons revenir au Moyen-Âge, refuser le régime démocratique, ou même, j'ai souvent entendu, que nous aurions des ambitions politiques, que nous défendrions la nécessité d'un mélange entre le spirituel et le temporel en demandant à l'Église de s'engager en politique. Donc j'espère que la lecture du livret du chef de chapitre de notre âme de chrétienté cette année permettra de rassurer ces médisants. Notre âme de chrétienté, en fait, ne fait preuve d'aucune créativité doctrinale. Nous rappelons la doctrine catholique, tout simplement, et ça ne devrait étonner personne.
Pour avancer sur cette idée que vous avez commencé à évoquer, pourquoi ce principe est-il aujourd'hui si peu enseigné dans les milieux catholiques ?
C'est une vaste question. Je m'étonne en fait de cet oubli et de cette absence, et je pense que c'est très dommageable. Deux exemples, récents d'ailleurs. Au mois de décembre dernier, c'était en 2023, de l'année 2023, hein, devant 600 séminaristes français à Paris, hein, pour un temps, je reprends les expressions, hein, d'enseignement et de partage. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, alors président de la Conférence des évêques de France, avait été interpellé par un séminariste qui, en lui disant « Est-ce que l'Église de France a un problème avec les traditionalistes ?» Alors, réponse de Monseigneur de Moulin-Beaufort, « Oui, oui, sans doute, en raison de notre histoire mouvementée, je le cite là, depuis la Révolution, s'il y a une question centrale, c'est une question de théologie politique et de rapport au monde. Le décret de Vatican II sur la liberté religieuse est très clair, le Christ n'est pas venu bâtir des nations catholiques, mais il est venu fonder l'Église. Ce n'est pas la même chose. À force de traîner la nostalgie d'un État catholique, on perd notre énergie pour l'évangélisation. » Merci, Monseigneur. Bon, très récemment, le 25 mars 2025, donc c'est il y a quelques jours au moment de cet enregistrement, donc dans le journal Le Pèlerin, donc c'est Le Pèlerin, c'est un journal, un nom qui s'impose pour quand on est à Notre-Dame de Chrétienté. Donc toujours Monseigneur de Moulin-Beaufort déclare les organisateurs de du pèlerinage, le nôtre, se durcissent. J'en ai l'inquiétude. Dans une compréhension de la tradition qui finit par être fausse. Et l'enjeu aujourd'hui, pour nous évêques, c'est d'exprimer en termes clairs auprès des plus jeunes ce qu'est la tradition de l'Église, avant tout l'acte du Christ qui se transmet, qui se donne lui-même. Ce n'est pas la perpétuation des coutumes, des mœurs, ce n'est pas la tradition des aïeux, mais la tradition de Jésus qui se livre sur la croix et dans l'Eucharistie. Je relève également une ambiguïté politique, nous y arrivons. Le Christ n'a pas fondé l'Église catholique pour créer des États catholiques, ni même une société catholique. Le Christ a créé l'Église pour qu'elle porte l'Évangile au monde et qu'il soit un ferment de liberté spirituelle. Alors vous imaginez bien qu'après 2023, j'ai écrit un courrier à Monseigneur de Moulin-Beaufort pour, après cette déclaration que je trouvais méchante et fausse. Il m'a aimablement répondu d'ailleurs, nous avons quelques différences semble-t-il, et je pense surtout déceler des préjugés dans ses propos. Une solution toute simple serait qu'il commente le livret de nos chefs de chapitre hein, qu'il nous fasse des critiques étayées sur des faits et non sur des préjugés des années 50. Donc nous l'avons dit, le décret conciliaire Nitatis Humanae n'expose pas clairement la doctrine du Christ III. On voit bien d'ailleurs que c'est un texte de compromis. Mais le catéchisme de l'Église catholique rappelle bien cette doctrine catholique sur cette question des rapports entre l'Église et l'État. La position de la doctrine catholique est très claire. Le Christ nous a enseigné comme prière le Notre Père qui demande que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Que l'incarnation d'ailleurs du Fils de Dieu et des conséquences dans l'ordre social sur les nations ne devrait pas nous étonner. Comment un catholique pourrait-il écarter ce rayonnement temporel du mystère central du christianisme ? Et puis notre histoire nous dit également que le christianisme s'est développé sur le terreau de sociétés chrétiennes. Celui qu'on a appelé le docteur du Christ III, le cardinal Pie, qui est archevêque de Poitiers, donc on est au XIXe siècle, hein, qui est né d'ailleurs dans le diocèse de Chartres, disait que les peuples, je le cite, « sont entrés en masse dans l'Église à la suite de leurs princes ». On peut citer parmi tant d'autres la conversion de Clovis, de Charlemagne, de Saint-Étienne en Hongrie, de Saint-Vladimir en Russie. Saint Alphonse de Liguori, qui est un saint italien du XVIIIe siècle disait, si je le cite, « Si je parviens à gagner un roi, j'aurais plus fait pour la cause de Dieu que si j'avais prêché des milliers de missions. » Dans son livre « Demain la chrétienté », dont Gérard nous le dit, « L'Église née du Christ, du cœur du Christ, la chrétienté née du cœur des saints. » Je vous invite d'ailleurs à lire son chapitre « Naissance d'une chrétienté » où il raconte l'importance des saints dans la conversion d'un pays. Mais pour revenir à la question, nous croyons que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes et qu'il est essentiel de le rappeler, même en régime de laïcité, et même si les catholiques sont devenus minoritaires dans une société qui était avant chrétienne. La divergence qui existe avec une certaine pensée moderne vient d'une volonté de séparer le spirituel du temporel, de faire de la religion une affaire privée, d'empêcher le catholique d'agir politiquement en catholique. Quand j'avais répondu à Monseigneur de Moulin-Beaufort, j'avais utilisé les arguments du père Daguet de la province de Toulouse, qui a écrit un livre magnifique de théologie politique qui s'appelle « Du politique chez Thomas d'Aquin ». Et j'avais utilisé ces arguments qui n'ont pas convaincu Mgr de Moulin-Beaufort, mais il me semble quand même très bon. Je le cite. « Il n'est pas excessif, le père Daguet, il n'est pas excessif d'affirmer que le politique a disparu du champ théologique. C'est consacrer la résorption de la morale dans sa sphère individuelle et se rendre impuissant à porter un regard théologique sur la politique. » Voyez, le père Daguet observe que dans cette nouvelle théologie politique, ou plutôt de la nouvelle absence de théologie politique, il y a un effet de l'individualisme ambiant. Mais prenons les choses sous un autre angle. Il est facile de constater les fruits d'une société athée et de la quasi-disparition de l'Église de la vie politique. On peut parler de la chute du nombre de prêtres ordonnés, du nombre de baptêmes, de la pratique religieuse. On cite des chiffres aujourd'hui de moins de 1,8% contre 25% dans les années 60. Alors il ne s'agit pas de dire surtout pas que c'était mieux avant. Il s'agit simplement de constater la déchristianisation de notre pays avec ses effets et sur les lois et sur des lois contre nature, contre la vie, contre la famille, l'éducation, les fameux points non négociables de Jean-Paul II et de Benoît XVI qui aujourd'hui semblent oubliés. Si de mauvaises lois, c'est-à-dire des lois opposées à la loi naturelle, sont votées, il faut peut-être se poser la question de la position du catholique dans cette société qui produit de mauvaises lois. C'est donc bien un problème politique, et pour le catholique, de théologie politique. Les pontificats de Jean-Paul II, de Benoît XVI, ont cherché à rappeler l'importance de la christianisation de la société, spirituellement et temporellement. Jean-Paul II, d'ailleurs, a beaucoup insisté sur le rôle des laïcs. Et le pape François, qui tout récemment en Corse, me semble contredire Mgr de Moulin-Beaufort quand il insiste sur la nécessaire christianisation de nos sociétés, moyen puissant d'évangélisation. Donc la politique n'est pas une fin en soi, mais reste un moyen indispensable à l'édification de la civilisation de l'amour voulue par Jean-Paul II. Donc les laïcs catholiques doivent participer à cette vie politique afin de, et je cite Jean-Paul II dans Christi Fideles Laici de 1988, afin de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun.
Et alors justement, Quasprimas Pie XI institue la fête du Christ-Roi. Aujourd'hui, cette fête a été décalée dans le calendrier liturgique. Est-ce que ça vous semble anecdotique ou bien c'est une question importante ?
Alors la réforme liturgique, qui date de 69, a déplacé la fête au dernier dimanche de l'année liturgique, avec comme nouveau nom solennité du Christ, roi de l'univers, comme pour signifier que ce règne était lié à la fin des temps, à la parousie, c'est-à-dire au retour du Christ de la fin des temps. Évidemment, dans le flou général, on peut penser que le déplacement de cette fête a contribué à fausser la compréhension de la fête du Christ roi, justement dans le contexte d'un enseignement incomplet.
En quoi la royauté du Christ diffère-t-elle du césaropapisme ou des théocraties ? Et peut-être commencerez-vous par expliquer à nos auditeurs ce qu'est le césaropapisme et la théocratie.
Oui, c'est important. Donc le terme de césaropapisme vient des mots César, qui fait référence à l'Empire romain, et pape. Et dans un système césaropapiste, le dirigeant politique combine les rôles de chef de l'État et de chef religieux. Le souverain donc, va détenir un pouvoir politique absolu et intervient aussi directement dans les affaires religieuses. C'est ce que... On dit que ce système a existé sous l'Empire byzantin. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu aussi des propos parfois contradictoires là-dessus. Enfin, c'est souvent ce qui est dit. La théocratie est un système politique où le pouvoir politique est exercé directement par les autorités religieuses qui gouvernent au nom des principes religieux. On cite comme classiquement l'islam ou l'Iran actuel, ou le clergé chiite, détient un pouvoir politique central. En effet, la royauté sociale du Christ est entièrement différente, puisque les deux ordres spirituels et temporels sont distincts et indépendants. Chaque pouvoir est souverain dans sa sphère. L'Église pour le salut des âmes, c'est la prédication, les sacrements, la célébration du culte, la morale, et l'État pour le bien commun des personnes, les intérêts matériels nécessaires pour le bien et la protection de la société. Donc l'Église est dépendante et subordonnée à l'État pour les questions temporelles, mais elle est indépendante et souveraine pour les questions spirituelles. Mais même s'ils sont deux pouvoirs distincts et indépendants, l'Église et l'État ne doivent pas vivre séparés, mais s'unir dans un accord mutuel. On va donc parler de distinction des pouvoirs et non de séparation. Léon XIII, donc fin du XIXe, a abordé ces sujets dans son encyclique Immortale Dei de 1885 sur la relation entre Église et État. Et il explique bien que l'Église et l'État ont des frontières communes. Ils s'adressent d'ailleurs aux mêmes personnes. Pour certains sujets sociétaux, comme l'école, le mariage, la santé, la défense de la vie, temporelle par nature, mais entrant dans le domaine spirituel parce que touchant la morale, l'Église a son mot à dire et devrait même exercer une autorité sur l'État, puisque la morale conditionne le salut des âmes.
L'encyclique Quos Primas a été publiée en 1925. Depuis, la société a quand même bien évolué. Est-ce qu'on peut encore défendre le règne social du Christ, dans une société pluraliste ?
Alors, comme pour toutes les vérités catholiques, la doctrine catholique, le dogme, l'Église et tous les catholiques ne peuvent que rappeler, donc défendre cette doctrine qui est salutaire pour les hommes. Défendre une vérité catholique est un devoir, même dans un monde hostile, dans une société athée et même christianophobe, comme l'est devenue notre société française. Sainte Bernadette Soubirous, quand elle racontait l'apparition de la Sainte Vierge à la grotte de Massabielle à Lourdes, disait à une personne qui ne voulait pas la croire « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire ». Donc il en va de même pour nous, dans notre temps, pour les enseignements catholiques rejetés aujourd'hui par le plus grand nombre et qui semblent difficiles à comprendre, à accepter. Notre devoir est de le dire, de bien le dire, doucement, charitablement, prudemment, fermement, intelligemment, si possible. Mais nous pouvons le dire aussi par notre exemple, en faisant vivre de petites chrétientés, comme par exemple dans nos chapitres, pendant le pèlerinage, dans nos associations, dans nos écoles, dans nos familles. Et puis vous pouvez aussi, si vous avez des talents artistiques, vous pouvez aussi exprimer cela par vos œuvres. L'art chrétien est un moyen puissant d'évangélisation. Pensez à la cathédrale de Chartres. Pie XI avait voulu, dans Quas Primas, demander également la consécration au Sacré-Cœur. Notre-Dame de Chrétienté, donc le lundi de Pentecôte, consacrera les pèlerins au Sacré-Cœur. Comprendre les raisons de ce lien entre cette dévotion et le Christ-Roi me semble très important pour en saisir bien le sens. La dévotion au Sacré-Cœur a souvent fait rire les esprits forts, les rationalistes, les anticléricaux. On pense aux moqueries de Michelet, l'historien. Le Sacré-Cœur symbolise l'amour divin, ce qui méritait d'être appelé à l'époque des Lumières, qui voyait Dieu comme un grand horloger, ou du jansénisme qui se faisait de Dieu une idée fade et aseptisée et effrayante d'ailleurs aussi. Le Sacré-Cœur est le symbole de l'incarnation, qui fait que l'amour du Christ n'est pas une idée. Dieu n'a pas fait semblant de prendre un corps, il n'a pas faim de partager la condition des hommes. En fait, ce que combat le culte du Sacré-Cœur, ce que veut nous faire comprendre Pie XI, c'est l'individualisme libéral. Les hommes, contrairement à la pensée révolutionnaire du XVIIIe siècle, ne sont pas des individus égoïstes dont la vie religieuse se limiterait à un face-à-face avec un être suprême, une sorte de confrontation solitaire. Les hommes sont liés entre eux, par-delà la mort, dans la communion des saints. Cette solidarité est rappelée par le Sacré-Cœur qui nous invite à réparer les péchés les uns des autres. Dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, Pie XI, le redit bien ainsi, et le pape François reprendra cet enseignement récemment dans son encyclique de 2024, Dilexit Nos. Quand les fidèles font des prières, des aumônes, des jeûnes, des pèlerinages en l'honneur du Sacré-Cœur, ils s'unissent aux souffrances du Christ et font par procuration ce que les pécheurs ne font pas. Le lien entre l'incarnation et le Sacré-Cœur renvoie au lien entre l'incarnation et le Christ-Roi.
Comment répondre aux objections selon lesquelles le christianisme devrait rester une affaire privée et non un projet politique ?
Alors le christianisme a une dimension publique, mais la conversion est une affaire personnelle bien sûr. Le christianisme a une dimension politique parce qu'il touche la société globalement, le spirituel et le temporel, distincts mais liés. Même si une hiérarchie existe, car les lois divines sont supérieures aux lois humaines. Que penser d'un ancien candidat à la présidence de la République en France, catholique affiché, qui se dit opposé à l'IVG, mais en même temps déclare avoir toujours voté toutes les lois en faveur de l'IVG. Il ne voulait pas, disait-il, que sa foi influe sur sa vie publique. Enfin, que penser d'un ancien président de la République, lui aussi catholique, qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de loi supérieure aux lois des hommes, En cela, il était un digne fils de la Révolution française, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme d'ailleurs, disant que la loi est l'expression de la volonté générale. J'aurai beaucoup d'autres exemples de ce type. Et tout récent d'ailleurs avec la prochaine loi sur la fin de vie, sachant que notre Premier ministre, Bayrou, se dit aussi un catholique affiché et personnellement toujours, en tant que catholique, opposé à cette loi. Et on craint évidemment que cette loi ne passe. Notre société sans Dieu produit aujourd'hui les fruits de tous ces désordres. Car si Dieu n'existe pas, tout est permis, comme nous dit Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Les attaques contre la vie, des plus petits aux plus âgés, contre la famille avec la pornographie, l'attaque contre le mariage entre un homme et une femme, la culture woke, le transgenrisme, et contre l'éducation avec l'effondrement actuel de l'école, montrent les effets d'une société sans Dieu qui refuse la loi naturelle, inscrite au cœur de l'homme. Lors de l'épisode Covid, le gouvernement français a tout simplement oublié, négligé, ignoré, on ne le sait pas, les droits des catholiques à pratiquer leur religion et à recevoir les sacrements. En revanche, ils avaient bien prévu des questions importantes comme la promenade des animaux de compagnie. Je vous invite à lire un discours extraordinaire prononcé par Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature 1970, à Harvard, le 8 juin 1978. Il condamne dans ce discours les deux systèmes économiques, le communisme et le capitalisme. Il parlait devant des étudiants d'Harvard et tout le monde s'attendait à ce qu'il avance plein d'arguments, plein de louanges sur le système capitaliste. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et Solzhenitsyn a dénoncé la chute spirituelle de la civilisation. Il a osé affirmer devant ses élites américaines, et je le cite, « Non, je ne prendrai pas votre société comme modèle pour la transformation de la mienne ». Solzhenitsyn a dénoncé l'erreur à la racine et à la fondation de la pensée moderne. L'homme est vu au centre de tout. N'est-ce pas exactement ce que nous dit Pie XI dans Quas Primas ? Et je continue avec ce discours magnifique. Je cite Solzhenitsyn. « J'ai vécu toute ma vie sous un régime communiste et je peux vous dire qu'une société sans référent légal, objectif, est particulièrement terrible. » Mais une société basée sur la lettre de la loi et n'allant pas plus loin échoue à déployer à son avantage le large champ des possibilités humaines. La lettre de la loi est trop froide et formelle pour avoir une influence bénéfique sur la société. Quand la vie est tout entière tissée de relations légalistes, il s'en dégage une atmosphère de médiocrité spirituelle qui paralyse les élans les plus nobles de l'homme. » Fin de citation. D'une certaine manière, le discours récent à Munich, le 14 février 2025, du vice-président américain James David Vance, reprend cette idée d'ailleurs. Jean-Paul II a beaucoup prêché sur le rôle des laïcs dans les sociétés postmodernes, afin qu'ils deviennent des saints, ce qui est un préalable à toute action. Je le cite, « Ne tombez pas dans l'erreur de croire qu'on peut changer la société en changeant simplement les structures externes ou en cherchant avant tout la satisfaction des besoins matériels. » Il faut commencer par se changer soi-même, en tendant sincèrement son cœur vers le Dieu vivant, en se rénovant moralement, en détruisant dans son propre cœur les racines du péché et de l'égoïsme. Une personne transformée collabore efficacement à la transformation de la société. » Fin de citation. J'aimerais enfin terminer. Encore une citation, vous m'excuserez, mais c'est magnifique. Des mots de Charles Péguy. Rien ne lui est plus étranger que cette idée d'un christianisme restreint à la vie privée, sans lien avec la société temporelle. Alors vous allez voir, c'est une houle maritime que je vais citer. C'est du Péguy, qu'il faut découvrir. Hein. C'est vraiment un grand mystère que cette sorte de ligature du spirituel au temporel. On pourrait presque dire que c'est comme une sorte d'opération d'une mystérieuse greffe. Le temporel fournit la souche et le spirituel. S'il veut vivre, s'il veut produire, s'il veut continuer, s'il veut poursuivre, s'il veut fleurir et feuillir, s'il veut bourgeonner et boutonner, s'il veut poindre et fructifier, le spirituel est forcé de s'y insérer. La force fournit la souche et l'idée est forcée de s'y insérer. Le corps fournit la souche et l'esprit est forcé de s'y insérer. Rome fournit la force et l'idée antique est forcée de s'y insérer.
En conclusion, le règne social du Christ peut paraître à certains un idéal inatteignable. Est-ce que cela vous semble une mission encore possible ?
Alors, le cardinal Pie, évêque de Poitiers, avait tenté d'exposer l'enseignement du Christ III. Je vous rappelle qu'il était appelé le docteur du Christ III. Exposer son enseignement du Christ III à Napoléon III. On était en 1856. L'empereur lui répondit « Croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez ? Ne pensez-vous pas, monseigneur, que ce serait déchaîner toutes les mauvaises passions ?» Le cardinal Pie lui répondit, avec beaucoup d'esprit, je trouve, « Sire, quand de grands politiques comme votre majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque, et comme évêque, je leur réponds, le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, eh bien, alors le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. » Et c'est bien ce qui arriva à Napoléon III, qui dut quitter piteusement la France dans un état épouvantable après la défaite de 1870. Donc la difficulté de notre époque est d'accepter de vivre comme chrétien dans une société qui ne l'est pas ou plus. Le père de Chivray nous disait que, je le cite, « se fiancer avec la vérité, c'est se condamner au divorce avec beaucoup d'hommes ». Fin de citation. Alors le père Calmel, grand nom du monde de la tradition, parlait de bâtir des fortins. Marcel Clément parlait de micro-chrétienté. Et l'américain Rob Dreher... plus récemment, de Paris bénédictin, c'est-à-dire il parlait de reconstruire de la chrétienté à partir de petits endroits, comme les bénédictins ont christianisé l'Europe à partir de leurs abbayes. Donc il ne s'agit pas de s'enfermer, mais de protéger la formation, la vie spirituelle, l'éducation, qui feront les personnalités chrétiennes de demain. Notre mission n'est donc pas de nous enfouir dans la société, de renoncer aux vérités de la foi ou aux exigences de Dieu, puisqu'il veut que son règne arrive, sur la terre comme au ciel. Notre mission est d'agir en chrétien, là où nous sommes, de construire ces micro-chrétientés autour de nous. Notre mission est aussi de nous former pour être en mesure d'expliquer les vérités de la foi catholique, du mieux possible. J'aurais cité l'homélie du père Jerzy Popieluszko lors de la canonisation de Maximilien Kolb. Il disait « Le problème essentiel est de surmonter la peur. Nous surmontons la peur lorsque nous surmontons la souffrance ou la perte de quelque chose au nom des valeurs supérieures. Donc nous devons avoir une confiance surnaturelle en Dieu qui ne nous abandonne pas et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tout cela réclame un état d'esprit de résistance intellectuelle, car les idées mènent le monde, à la fois spirituelle et morale, bien sûr avec l'aide des sacrements. Donc c'est une œuvre de fidélité, de résistance et de reconstruction dont il s'agit, une œuvre à laquelle nous sommes tous appelés pour la défense de l'honneur de Dieu.
Merci monsieur pour cet entretien très complet qui nous éclaire sur les principes de la royauté sociale du Christ. Fort de la conviction que c'est une vérité révélée, fondée sur l'Écriture et sur toute la tradition, nous pourrons ainsi, en connaissance de cause, œuvrer à instaurer le règne du Christ sur la terre comme au ciel.